Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre du podcast Il était quelquefois. Dans le dernier chapitre, vous avez pu avoir une des plus grosses révélations de l'intrigue. Voilà, ça y est, vous avez presque toutes les cartes en main. Il vous manque très très peu de choses pour enfin que tout le puzzle que Lilou s'était fait en tête et qui est complètement faux en fait, il faut vous imaginer un puzzle où rien ne va, où toutes les pièces ont été imbriquées les unes dans les autres de force, mais qu'au final l'image n'est pas du tout ce qu'elle est réellement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Lilou a donc essayé de mettre la vitesse supérieure avec Armand, elle voulait aller beaucoup plus loin en fait de ce qui s'est vraiment passé. Elle a vu qu'il buvait beaucoup, que tout le monde était très triste ce soir-là. L'absence de Valentine pèse énormément sur la maison des Vernes. Et au soir, quand Lilou commence à préparer le souper, elle va essayer et elle essaye de vouloir embrasser vraiment fougueusement Armand devant son frère, donc devant Antoine, elle n'y arrive pas. Et ce dernier va tout simplement partir avant, donc ça la met un peu en colère. Et puis finalement, elle embrasse quand même Armand. Et ce dernier, à moitié ivre, à moitié triste, à moitié fatigué, complètement abattu, va en fait... avouer à demi-mot sans vraiment le lui avouer que ben, la femme qu'il aime c'est Valentine en fait et pas du tout Lilou, ce que Lilou pensait hein. Elle était persuadée que Armand était amoureux d'elle, mais elle se rend compte que non. Donc là elle est très fâchée, elle se dit c'est bon, elle a voulu avoir les deux mecs de la maison en plus, donc j'ai même pas eu une seule chance avec aucun d'entre eux. Et puis elle se rend à l'atelier d'Antoine, elle veut vraiment cette fois avoir une conversation sérieuse avec lui, mettre les points sur les i. Mais ce qu'elle va découvrir à ce moment-là, eh bien, c'est en tout cas ce qu'elle n'attendait pas. Vu que la personne qu'Antoine aime depuis le début, ce n'est absolument pas Valentine, c'est son frère Joe. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 53, Alsace, 2005. En redescendant l'escalier en colimaçon qui menait au hall d'entrée, là où se trouvait la réception, Nicolas ne savait plus très bien où il en était. Ou plutôt, pour dire la vérité, il se sentait complètement chamboulé par les révélations qui venaient de lui être faites. Soit Émilie Muller mentait, pour Dieu sait quelle raison, soit elle disait vrai, et alors sa vie à lui se résumait à une longue série de mensonges. Soit, et il l'espérait, la vieille dame perdait complètement la tête et s'inventait une vie qui n'existait pas. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, il s'entendit appeler. « Monsieur Page ?» Evelyne Munier arrivait vers lui, tout sourire depuis la cafétéria. Elle avait coupé ses cheveux, qu'elle portait dorénavant en un carré blond impeccable, vêtue d'un chemisier d'une blancheur éclatante et d'une jupe crayon rouge sang, exactement de la même couleur que son rouge à lèvres. Elle ressemblait plus à une hôtesse de l'air qu'à une directrice de maison de retraite. « Vous ressemblez à une hôtesse de l'air, » lui fit Nicolas. Vous trouvez ? Répondit-elle, son sourire vacillant durant quelques secondes, pour revenir encore plus éclatant. Visiblement, avait-elle conclu, il s'agissait d'un compliment. Et vous, monsieur Page, vous êtes toujours... Toujours pareil, termina-t-il, constatant qu'elle cherchait ses mots. Madame Munier, je voulais vous demander quelque chose. Bien sûr, dit-elle. Puis, comme il semblait hésiter, elle ajouta, voudriez-vous que nous allions dans mon bureau ? Comme il acquiesçait, elle lui fit signe de la suivre et ils se dirigèrent vers une petite porte, à demi cachée par une plante verte gigantesque. Elle s'effaça afin de le laisser entrer, puis ils s'installèrent de part et d'autre d'un bureau, si brillant que l'on pouvait se voir dedans. « Je vous écoute, » fit la directrice. « Est-ce que Madame Muller souffre de... Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle a perdu un peu la tête ?»« Vous voulez dire, est-ce qu'elle souffre de démence sénile ?»« Je veux dire, est-il possible qu'elle invente des choses tout en étant persuadée de dire la vérité ?» Evelyne Munier ne répondit pas tout de suite. Elle considéra Nicolas un instant, les yeux rétrécis en se tapotant le menton de l'index comme si elle évaluait ce qu'elle pouvait révéler ou non. Finalement, elle sembla prendre une décision et répondit sur un ton circonspect. « Madame Muller étant une de mes résidentes, vous comprendrez que si tel était le cas, je ne pourrais vous donner ce genre d'informations. Sauf si vous êtes de sa famille, et vous ne l'êtes pas, d'après ce que vous m'avez dit. Je comprends. C'est vrai, vous avez raison. » Cela dit, reprit-elle, ce que je peux vous dire, sans trahir le secret médical, c'est que Madame Muller est une femme qui a les pieds sur terre et qui possède une grande intelligence. Elle ne parle jamais pour ne rien dire et d'ailleurs, jusqu'à votre arrivée, elle ne parlait quasiment à personne. Comme vous avez sans doute pu le constater, ce n'est pas quelqu'un de très sociable. Elle préfère sa propre compagnie à celle des autres résidents. Je m'en étais aperçue, oui. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, Monsieur Page, mais... Pourquoi cette question ? Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'elle vous raconte est dénué de fondement ? Il secoua la tête, puis haussa les épaules en signe d'ignorance. Je ne sais vraiment pas. Après un léger silence, il ajouta : Ce serait tellement énorme si c'était vrai. Les symptômes de la démence sénile sont parfois difficiles à déceler, surtout au début de la maladie. Est-ce que vous avez constaté chez elle une confusion dans le langage, des troubles de l'humeur ?
Pas que je sache, non. Il n'y a rien de confus dans ce qu'elle dit, c'est juste que je me posais des questions.
D'après ce que j'ai compris, elle vous raconte sa jeunesse, non ?
Mm-hmm.
Elle vous fait des révélations qui vous semblent quelque peu farfelues ?
Farfelues ? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, explosives.
Et dans l'énoncé de ces révélations explosives, est-ce que vous avez décelé quelque chose qui ne collait pas ? Des incohérences dans le déroulement des événements ? Par exemple, elle vous raconte un épisode censé s'être produit en été, puis elle vous parle de la neige qui tombait ce jour-là ? Ou d'une personne décédée depuis longtemps qui referait surface ? Des confusions mentales de ce genre ?
Non, non pas ce genre-là.
Au contraire, elle parle bien, surtout quand on sait que le français n'est pas sa langue maternelle et tout se tient dans ce qu'elle dit, du moins pour le moment. Je me demandais juste s'il était possible qu'elle fabule. Evelyne Munier sourit en écartant les bras. Ça, monsieur Page, c'est bien sûr possible, mais écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que madame Muller, à ma connaissance, ne souffre ni de démence, ni d'Alzheimer. Quant à savoir si ce qu'elle vous raconte est vrai, ça, je ne saurais vous le dire. Cependant, quelle raison aurait-elle de vous mentir ? Il n'y a qu'elle qui le sait. Effectivement, je pense qu'elle dit la vérité. Elle a l'air trop droite pour mentir. C'est juste que c'est vraiment énorme. Enfin, je vous remercie de m'avoir reçu, fit Nicolas en se levant. Elle l'imita et le reconduisit jusqu'à la porte. Mais avant de l'ouvrir, la main sur la poignée, elle se tourna vers lui et le fixant d'une étrange manière décréta. Parfois, monsieur Page, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Elle semblait sur le point d'en dire plus quand une jeune infirmière qui arborait une tignasse bleue se précipita vers eux. « Ah, oh, madame Munier, justement, je venais vous chercher. Il faut que vous veniez d'urgence. Monsieur Billet fait de nouveau des siennes à la cafétéria. »« Oh, seigneur, j'en viens de la cafétéria. Il semblait calme. »« Oui, mais écoutez-le maintenant. » En effet, on entendait une série de jurons plutôt imagés et gratinés proférés d'une voix caverneuse qui venait de l'autre bout du couloir. Puis, une autre voix plus claire, celle d'une femme, reprit la même litanie, entrecoupée d'éclats de rire nerveux. « D'accord, Lydia, retournez là-bas, essayez de le calmer, j'arrive tout de suite. » Elle tendit la main à Nicolas, puis rapidement se dirigea vers les clameurs. Nicolas sortit des peupliers, en proie à une vive agitation. Il ne savait que croire. Il venait d'apprendre qu'il n'était pas le fils de Clara, celle qu'il avait considérée comme sa mère durant toute sa vie. Et, à peine quelques jours plus tard, on lui assénait que son père était homosexuel. Mais il avait tout de même aimé Valentine, sa vraie mère, sinon il ne serait pas là, lui. Il s'assit sur un banc à l'orée de la forêt, afin de réfléchir. Son père aurait eu une liaison avec les deux jumeaux ? Son père, que lui, Nicolas, avait toujours vu, toujours cru, amoureux de sa mère ? Enfin, de Clara ? Il ne pouvait s'empêcher de trouver cela monstrueux. Cet homme, au sourire à la fois moqueur et candide, serait donc une sorte de pervers ? Il secoua la tête. Non, cela ne faisait pas de lui un pervers. Ou alors oui, il ne savait plus que penser. Il ne pouvait pas oublier Joe, son professeur, l'ami de son père, et maintenant son oncle Joe. Mais il eut beau se creuser la cervelle, il ne parvint pas à se rappeler un seul geste tendre entre les deux hommes, ni aucune parole d'ailleurs. Mais après le décès de sa mère, de Clara, Joe était devenu un habitué de la famille. Il venait tous les jours lui donner des cours et quand il n'en eut plus besoin, sa présence était devenue une constante, sans pour autant qu'elle devienne gênante. Au contraire, Joe était le chaînon manquant, et maintenant qu'il connaissait ce secret, Nicolas revoyait le quotidien de son père sous un nouveau jour. Quand Antoine est mort, il a été la première personne à qui il avait pensé. Le premier coup de téléphone avait été pour lui, mais Nicolas pensait avertir un ami, proche, et non pas un amant. Joe n'avait rien dit, pourtant. Il venait de perdre son âme sœur, et même dans la douleur, il avait gardé le secret. Perdu dans ses pensées, essayant de trouver la faille, le moment où son père et Joe auraient pu lui donner des signaux qui auraient tout expliqué, qui auraient été l'élément déclencheur, qui auraient fait exploser cet énorme secret. Il se remémora la dernière phrase, quelque peu sibylline, de la directrice. « Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. » Qu'avait-elle voulu dire ? Est-ce qu'elle parlait de Lilou ? Soudainement, il trouvait que ça s'appliquait parfaitement à la relation de son père. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui avait dit ça et regrettait de ne pas avoir eu le temps de lui demander. En revenant à son bureau quelques minutes plus tard, Evelyne saisit le combiné du téléphone. « Madame Muller, c'est Evelyne. »
« Oui. »
Comme la vieille dame n'enchaînait pas, elle reprit en soupirant. « Vous aviez raison, il se pose des questions. Il est venu vous voir ?»«
Oui, il se demande si vous avez toute votre tête. »
Elle entendit un petit rire aigre à l'autre bout du fil, puis Émilie Muller reprit. «
Et donc, vous avez bien suivi mes instructions? Vous ne lui avez pas dit que j'étais atteinte d'Alzheimer?
Non, bien sûr que non. Mais je me sens un peu coupable.
Pourquoi? Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Tout ce que je lui ai dit est vrai. Vous savez très bien que, pour le moment du moins, j'ai encore toute ma tête.
Je le sais bien, mais rien. Je ne veux pas qu'il doute de moi. De plus, tout ce que je dis est rigoureusement exact. Simplement, je ne veux pas qu'il sache pour ma maladie. Pas pour le moment, en tout cas. Je ne voudrais pas qu'il rentre chez lui, pensant que je raconte n'importe quoi et que je perds la tête. Le moment venu, je veux qu'il soit à mes côtés. Ça n'est pas trop demandé, il me semble.
Oui, bien sûr, je sais. Vous voulez qu'il vous accompagne en Suisse?
Oui, pas tout de suite. Mais quand je le dessinerai, je veux qu'il soit présent. Quand la doctoresse Rivet m'a annoncé ma maladie, j'ai tout de suite pris mes dispositions.
Madame Muller, en parlant de dispositions, ne vous inquiétez pas, ma petite. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Une bonne partie de ma fortune reviendra à votre établissement.
Si vous continuez à faire ce que je vous dis, bien sûr.
N'ayez crainte. Je me demandais juste, suite à votre diagnostic, s'il ne serait pas plus judicieux de mettre tout ça par écrit.
Vous ne perdez pas le nord, vous.
Comprenez-moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'établissement.
Je sais. Ne vous inquiétez pas, je vous le répète. Tout est déjà prêt, tout est signé. À ma mort, vous recevrez ce que je vous ai promis.
Je vous remercie, vraiment.
Ne me remerciez pas. Ou plutôt, faites-le en continuant à tenir Nicolas dans l'ignorance. C'est tout ce que je vous demande, ce n'est pas sorcier tout de même. Je me charge du reste.
Sans attendre la réponse, Lilou raccrocha. Elle savait pouvoir compter sur la directrice. Celle-ci avait bien besoin du revenu plus que substantiel qu'elle allait hériter à sa mort. En effet, avant la venue de la vieille dame, les peupliers étaient sur le point de fermer, faute de moyens. Il fallait rénover tout le complexe, engager plus de personnel compétent, revoir la nourriture et les soins. Tout cela avait un prix et c'est grâce à son argent que l'établissement non seulement avait survécu, mais était devenu l'un des homes les plus luxueux et les plus prisés. Comme elle l'avait dit, elle tiendrait parole. À sa mort, une grande partie de sa fortune servirait à continuer d'entretenir les lieux et le reste irait à sa fille, si celle-ci consentait à rester Auvergne. Une petite fortune qu'elle destinait à ses deux femmes, mais peu lui importait car elle possédait bien assez d'argent et si celui-ci servait à maintenir les deux maisons à flot, alors tant mieux. Maintenant qu'elle avait décidé de l'endroit et de la façon dont elle allait mourir, qu'elle avait mis ses affaires en ordre et réussi à faire venir Nicolas, le petit Nicolas, le seul enfant qu'elle ait réellement aimé, à son chevet, tout irait bien. Elle se dirigea vers son secrétaire, prit le cahier rouge et regagna son fauteuil, l'ouvrant à la page qu'elle venait de narrer à Nicolas. Il était parti plus tôt ce jour-là, à sa demande, car elle ne parvenait tout simplement pas à continuer son récit. En fermant les yeux, elle se remémora cette nuit si lointaine, cette nuit qu'elle tentait pourtant d'oublier depuis tant d'années. Mais chaque minute, chaque seconde restait à jamais gravée dans sa mémoire. La rage et le déchirement qu'elle avait ressenti en apprenant qu'Armand était lui aussi l'amant de Valentine et qu'il ne dépérissait pas par amour pour elle, Lilou, mais pour les beaux yeux de cette femme complètement immorale qui voulait s'attacher les deux frères. La stupéfaction et le dégoût qu'elle avait éprouvé en découvrant, quelques minutes plus tard, les deux hommes qui s'embrassaient, la main d'Antoine dans les cheveux de Joe, le fracas du tonnerre, le cri qu'elle avait poussé en reculant de la fenêtre avant de tomber et de se cogner la tête contre la souche d'arbre située juste en dessous. Brusquement, une douleur aussi intolérable que fulgurante lui transperça le crâne. Elle poussa un gémissement, tout en se tenant la tête des deux mains, tomba d'abord à genoux sur le tapis, puis s'effondra de tout son long, évanouie. Quand elle reprit conscience, après ce qui lui sembla des heures, elle se releva doucement, en proie à une migraine tenace. Ses médicaments. Où se trouvaient ces médicaments? Désorientée, elle regarda autour d'elle et ce n'est qu'en apercevant son secrétaire qu'elle reprit ses esprits. Ses médicaments étaient rangés dans le tiroir du haut. Encore sous le choc, un peu étourdie, elle se dirigea à petits pas vers le meuble. Elle ouvrit sa boîte de comprimés, en avala deux, sans eau. Puis son regard se posa sur l'emplacement du tiroir secret, parfaitement invisible et impossible à détecter si on ne savait pas où chercher. Elle repensa avec terreur à ce jeune homme, l'infirmier désinvolte dont elle avait dû se débarrasser, après qu'il eût trouvé le tiroir secret. Fermant un instant les yeux, elle inspira et expira plusieurs fois afin de se calmer. Le jeune homme ne faisait plus partie du personnel. Elle y avait veillé. Il ne pourrait donc plus revenir et s'emparer du cahier bleu, ni le lire. Elle n'avait pas compris comment il avait fait, ni quelles étaient ses motivations, mais elle soupçonnait la compagne de Nicolas, cette femme si vive, d'avoir demandé à l'infirmier de jeter un œil. Et il avait fait plus que cela. Lydia, l'infirmière punk, l'avait ensuite rassurée en lui révélant que son collègue avait été ébéniste avant de changer de voie. Est-ce que cette Luce était au courant ? Était-ce une des raisons pour laquelle elle avait demandé à cet homme de fouiller dans son secrétaire ? Et si oui, que lui avait-il rapporté ? Il n'avait probablement pas eu le temps de lire grand-chose, mais tout de même, il connaissait l'existence de ce cahier. Elle se tourna vers la fenêtre. Le ciel délavé lui rappelait un jour précis, peut-être parce qu'une odeur de pluie filtrait à travers les rideaux. Elle la ramena en arrière, vers un passé qu'elle voulait laisser derrière elle. Mais visiblement, c'était trop demandé à son âge. Ses cauchemars qui l'empêchaient de dormir en étaient bien la preuve. Peut-être qu'elle devait simplement prendre son courage à deux mains et suivre les conseils des médecins. Elle écrivait pourtant tous les jours, mais certains passages étaient trop importants pour être simplement rédigés comme les autres. Munie d'une aiguille à tricoter, elle parvint à faire jouer le mécanisme de son secrétaire à la fois simple et complexe, puis extirpa le cahier bleu de sa cachette. En s'asseyant, elle s'empara d'un stylo et, prenant bien soin de ne pas poser les yeux sur l'écriture délavée par le temps, commença une nouvelle page. La douleur qui venait de la terrasser la rappelait à l'ordre. Il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps. Il n'était pas trop tard, mais il valait mieux le faire tout de suite. Elle commença à écrire pendant des heures, sans relever la tête. Puis, enfin, referma le cahier sans relire ce qu'elle venait d'écrire et le rangea à nouveau dans sa cachette, d'où il ne ressortirait plus jamais. Alors épuisée par ce qu'elle venait de faire et qu'elle considérait un peu comme un exorcisme, presque apaisée, elle se déshabilla et alla se coucher. « Il y a bien longtemps que j'aurais dû faire ça », se dit-elle une fois dans son lit, toutes les lumières éteintes. « Les autres fois, ça m'a fait du bien. Là aussi. » Puis, elle repensa à Nicolas et son cœur se serra. Le lendemain encore, il allait devoir encaisser une nouvelle catastrophique.